expliquer quelle lettre écrire, et surtout, pourquoi lui écrire à elle? Que représente-t-elle pour moi? Ou plutôt, encore plus mystérieux, que représentais-je pour elle? Je n'ai pas le courage non plus de parler à maman. Comment annoncer à une mère qu'elle va se retrouver, à près de 75 ans, à torcher son fils, à le nourrir à la cuillère jusqu'à ce qu'il s'éteigne, assez rabougri pour pouvoir retourner dans sa matrice? C'est une atrocité que je ne peux pas commettre, Dieu nous préserve. Je préfère encore crever seul avec Kraus. C'est pas le mauvais bougre, Kraus. Je le déteste, mais c'est mon seul allié. Contrairement aux médecins de l'hôpital, qui sont des singes, malins et imprévisibles. Ce spécialiste des maladies tropicales portait une blouse blanche ouverte sur un pantalon de toile bleue. Il était un peu gras, avec une grosse figure ronde et un accent de Berlin. Comme c'est comique, j'ai pensé. Il faut bien évidemment qu'un spécialiste des infections exotiques soit allemand. Nous, notre empire a toujours été européen. Pas d'île Samoa et de Togoland où étudier les fièvres pestilentielles. Sarah m'a posé la question. Alors, ce rendez-vous, tout va bien? Je lui ai répondu. Tout va bien. Le praticien ressemblait à Gottfried Benn, ce qui l'a immédiatement fait éclater de rire. Comment ça, Gottfried Benn? Mais Benn ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Exactement. Gottfried Benn ne ressemble à rien de particulier, donc ce docteur est son portrait craché. Pendant toute la consultation, je m'étais imaginé dans un lazaret sur le front belge en 1914, ou dans une horrible clinique pour maladies vénériennes de la République de Weimar. Gottfried Benn observait ma peau à la recherche de traces de parasitose ou de Dieu sait quoi d'autre, persuadé que l'humanité était toujours infectée par le mal. Je n'ai d'ailleurs jamais donné suite aux absurdes demandes d'examen du docteur Benn, déféqué dans une boîte en plastique étant absolument au-dessus de mes forces, ce que je n'ai bien évidemment pas avoué à Sarah. Il faut dire, à ma décharge, qu'être ausculté par l'auteur de morgue ou de chair ne vous met pas en confiance. Pour noyer le poisson devant Sarah, je me suis alors lancé dans une comparaison embarrassée entre Benn et Georg Trakl, qu'il faut à la fois rapprocher et opposer. Trakl, le subtil homme secret dont la poésie obscurcissait le réel pour l'enchanter. Trakl, le sensible salzbourgeois dont le lyrisme dissimule, cache le moi dans une complexe forêt symbolique. Trakl, le maudit, drogué, amoureux fou de sa sœur et du suc du pavot, dont l'œuvre est parcourue de lune et de sang, sang du sacrifice, sang menstruel, sang de la défloration. Rivière souterraine coulant jusqu'au charnier de la bataille de Grodeck en 1914 et au mourant des premiers combats de Galicie. Trakl peut être sauvé par son décès si prématuré des horribles choix politiques de Benn. C'est Sarah qui m'opposa cette atroce sentence. Mourir jeune préserve parfois des terrifiantes erreurs de l'âge mûr. Imagine que Gottfried Benn soit mort en 1931, disait-elle. Est-ce que tu le jugerais de la même façon s'il n'avait pas écrit « L'État nouveau et les intellectuels » et tenu des propos aussi horribles contre les écrivains antifascistes? Cet argument était selon moi spécieux. Beaucoup n'étaient pas morts en 1931 sans pour autant exalter la victoire de nouveaux États autoritaires, comme Benn. Chez Benn, le corps n'est pas la coupole de l'âme. Il n'est qu'un misérable instrument qu'il faut améliorer par la génétique pour obtenir une race meilleure, plus performante. Que les médecins soient ensuite horrifiés par les conséquences de leur propre théorie ne les absout pas. Que Benn s'éloigne finalement des nazis peu de temps après leur arrivée au pouvoir ne l'absout pas. Les Benn ont participé à l'illusion nazie. Leur effroi postérieur face à leur golem ne les excuse en rien.